Bonjour à tous, bienvenue au balado 40 ans pour elle de la Dauphinelle. La Dauphinelle est une maison d'hébergement pour femmes et enfants victimes de violences conjugales qui offre également une panoplie de services dans la communauté. Cette année, nous célébrons nos 40 ans d'existence et pour l'occasion, nous avons créé un balado composé de 5 épisodes qui aborderont différents thèmes reliés à la violence conjugale. Pour notre deuxième épisode, nous accueillons Simon Lapierre, professeur titulaire à l'Université d'Ottawa. Il se spécialise en violence conjugale, notamment grâce à ses recherches sur le terrain auprès des femmes, mais surtout auprès des enfants exposés à la violence conjugale. Via son expertise, il dirige plusieurs études et publie ses livres « Il se prenait pour le roi de la maison », ainsi que son deuxième ouvrage « Le meilleur intérêt de l'enfant victime de violence conjugale ». Il a contribué directement à la sensibilisation de plusieurs milieux, dont la protection de la jeunesse. Il est l'un des membres fondateurs du comité du collectif de recherche féministe anti-violence. Aujourd'hui, nous avons le privilège de discuter avec lui des conséquences de la violence conjugale sur les enfants. Bonjour, Monsieur Lapierre.
Bonjour.
En fait, on va commencer par démystifier le premier sujet qui est, en fait, c'est quoi l'exposition à la violence conjugale?
En fait, il n'y a pas si longtemps, la violence conjugale n'était pas reconnue comme un problème social. Graduellement, on a reconnu que la violence conjugale était un problème social, mais pendant un certain temps, on a considéré que cette violence-là, elle était un problème qui affectait uniquement les adultes concernés. Et graduellement, on s'est rendu compte, en fait, c'est les intervenantes en maison d'hébergement qui ont été les premières à se rendre compte que les enfants qui vivent dans un contexte de violence conjugale, qui vivent avec un père ou le conjoint de leur mère qui est violent, contrôlant l'endroit de leur mère, ben ça affecte aussi les enfants. Les enfants sont aussi affectés par ça. Et c'est comme ça qu'on a commencé à s'intéresser à la question de l'exposition à la violence conjugale. Mais quand je dis que les connaissances ont quand même évolué, lorsqu'on a commencé à s'intéresser à la question de l'exposition à la violence conjugale, on parlait d'ailleurs des enfants témoins initialement. On parlait des enfants témoins de violence conjugale. Et la question qu'on se posait surtout lorsqu'on voulait évaluer la situation de ces enfants-là, on se disait, est-ce que cet enfant-là était présent lorsque il y a eu un incident ou un acte de violence. Par exemple, les policiers sont intervenus vendredi soir. Est-ce que l'enfant, il était présent? Et si l'enfant était présent, on se posait, par exemple, la question, est-ce qu'il a vu? Est-ce qu'il a entendu ce qui s'est passé? Et si il n'était pas présent ou il n'avait pas entendu, ben, on considérait que cet enfant-là, il n'était pas témoin de violence ou il n'était pas exposé à la violence. Et c'est là où les connaissances ont évolué. Hein. En matière de violence conjugale, on a reconnu que la violence conjugale, ce n'est pas seulement le fait d'actes ou d'incidents violents, mais c'est vraiment une dynamique de contrôle et de privation de liberté. En fait, c'est la même chose pour les enfants. Un enfant qui est exposé à la violence conjugale ou un enfant qui vit dans un contexte de violence conjugale, c'est un enfant qui, oui, peut parfois, de temps à autre, être exposé à des actes ou à des incidents de violence qui peuvent comprendre des agressions physiques, des agressions verbales ou des agressions sexuelles. Mais c'est surtout un enfant qui, au quotidien, vit dans un contexte où le père ou le conjoint de la mère déploie toutes sortes de stratégies, parfois violentes, mais parfois non violentes, qui vraiment visent à contrôler leur mère et à priver leur mère de sa liberté. Alors, l'enfant qui vit dans un contexte de violence conjugale, il est exposé à tout ça, finalement, et il vit dans un contexte où, au quotidien, il est exposé à la surveillance, au harcèlement, au dénigrement, aux insultes, au contrôle. Et c'est donc beaucoup plus que d'être exposé à un incident de violence.
Et puis, à la Dauphinelle, par exemple, on accueille plusieurs femmes qui viennent avec leurs enfants et qui vont commencer à nous dire « mon enfant, il était à l'école ou il était à la garderie lorsqu'il y avait vraiment de la violence à la maison et donc ils n'ont vécu aucune violence conjugale, aucune exposition. Donc, conséquemment, il n'y a aucune conséquence à ces enfants-là. Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire à ces personnes-là? »
Bien, premièrement, je pense que la première chose qui est importante de reconnaître, c'est que les enfants, même lorsqu'ils ne sont pas présents lors des incidents de violence, sont quand même exposés à toutes les autres stratégies de contrôle et de domination. Et les recherches nous démontrent assez clairement, en fait, que les enfants qui vivent dans un contexte de violence conjugale, ils savent ce qui se passe à la maison. Souvent, on a l'impression qu'ils n'ont pas entendu, qu'ils n'ont pas vu, qu'ils sont trop petits, qu'ils ne comprennent pas. Mais les enfants, même assez jeunes, en leur propre compréhension de ce qui se passe. Et finalement, leur compréhension est souvent assez juste de la violence qui est subie par leur mère. Et il faut quand même mentionner qu'un enfant qui vit dans un contexte de violence conjugale, en plus d'être exposé à tout ça, il est très, très souvent aussi ciblé par les comportements du père. Donc, on sait que les enfants qui vivent dans un contexte de violence conjugale sont souvent victimes eux aussi d'abus physiques, d'abus verbaux. On leur impose à eux aussi des règles souvent très strictes, très rigides. Il y a des conséquences s'ils ne respectent pas les règles qui sont imposées par le père ou par le conjoint de la mère. Donc, ils sont aussi très souvent la cible même de cette violence-là. Tous les enfants ne sont pas affectés de la même façon par la violence à laquelle ils sont exposés. On parle souvent, lorsqu'on s'intéresse aux conséquences de la violence conjugale sur les enfants, on pense souvent aux problèmes que ces enfants-là vont ou pourraient éventuellement développer. La violence conjugale, elle affecte les enfants aujourd'hui, dans leur quotidien, dans leur vie quotidienne. Et je pense que quand on pense aux conséquences de la violence conjugale sur les enfants, oui, il y a des risques que ces enfants-là puissent développer éventuellement certaines difficultés ou certains problèmes, mais je pense que c'est surtout important de comprendre qu'un enfant qui vit aujourd'hui dans un contexte de violence conjugale n'est pas en sécurité, qui ne se sent probablement pas en sécurité. C'est un enfant qui vit aussi, qui évolue dans un environnement qui ne favorise pas une réponse adéquate à ses besoins. Il ne peut pas souvent obtenir le soutien de son père, du parent qui est violent parce que ce serait trop dangereux ou parce qu'il n'osera pas.
En fait, nous, à la Dauphinelle, on accueille beaucoup d'enfants qui ont justement été exposés directement ou non à la violence conjugale. Et puis donc, on travaille les conséquences. On a deux éducatrices spécialisées qui travaillent avec les enfants. Supposons, beaucoup de ces familles-là vont avoir la protection de la jeunesse, qui sont impliquées dans leur vie. Et ce qu'on observe, en fait, c'est que nous, on va, par exemple, rencontrer l'intervenante ou l'intervenant de la protection de la jeunesse. Et la réponse qu'on reçoit souvent de la protection de la jeunesse, c'est « ben, c'était pas de la violence conjugale » ou « l'enfant n'a pas de conséquences » ou « c'est un conflit de séparation ». Donc, il y a un mandat différent, il y a des buts différents. Mais d'où est-ce que ça vient, cette espèce de dualité-là, d'opposition, en fait, que nous, en maison d'hébergement, on dit « oui, il y a de la violence conjugale », puis la protection de la jeunesse elle-même va nous dire « non, ce n'est pas de la violence conjugale ».
Bien, malheureusement, on le sait, c'est assez bien documenté, les femmes et les enfants qui vivent dans un contexte de violence conjugale sont souvent confrontés à toutes sortes d'incohérences, de difficultés, de lacunes lorsqu'ils font appel ou qu'ils sont en contact avec différents services. Il y a des services en violence conjugale, il y a parfois aussi la DPJ, effectivement, qui va être impliquée dans leur vie. Parfois, il y a aussi des procédures en parallèle ou pas tellement longtemps après à la Cour supérieure pour régler les enjeux de garde, les droits d'accès. Et malheureusement, souvent, il n'y a pas de cohérence et de constance dans la réponse qui est offerte par ces différents systèmes-là. Dans un article que j'ai rédigé récemment avec une collègue, on s'est inspiré de l'analogie des trois planètes qui a été développée par Marianne Esther, une chercheure britannique, une collègue, et on a essayé de l'appliquer au contexte québécois. Et en fait, ce que l'analogie des trois planètes nous permet de comprendre, c'est que non seulement, souvent on va dire que les secteurs fonctionnent en silos, mais c'est plus que ça, en fait. Ils fonctionnent comme des planètes différentes. Donc, on a vraiment l'impression là, que lorsqu'une famille, lorsqu'une femme et un enfant qui vit dans un contexte de violence conjugale, lorsqu'ils atterrissent en maison d'hébergement, ils sont sur une planète. Puis là, le lendemain, quand ils vont rencontrer l'intervenant de la DPJ, ils sont vraiment sur une autre planète tellement ça fonctionne différent, tellement les repères, l'historique, la culture, les lois, les pratiques, tout est tellement différent. Et ça permet vraiment de comprendre pourquoi il y a tellement autant d'incohérences et parfois de contradictions dans le message même qui est envoyé aux femmes et aux enfants et aux pères aussi violents dans ce contexte-là. Et quand on regarde plus spécifiquement, par exemple, le contraste sur ce qu'on appelle la planète violence conjugale, où on retrouve notamment les maisons d'hébergement, sur cette planète-là, notre focus, il est vraiment sur la violence qui est vue comme étant inacceptable, comme étant même dans bien des cas criminel. Et notre posture sur cette planète-là, c'est de dire, OK, j'interviens en violence conjugale, j'interviens dans une situation de violence conjugale. Ça veut dire qu'en face de moi, j'ai une victime, qui est généralement la femme, la mère, et j'ai un agresseur, qui est généralement le père ou le conjoint de la mère, qui est l'homme, dans la très grande majorité des cas. Et mon approche va être de dire, lorsque je travaille auprès de la victime, c'est dans une perspective de soutien. C'est pour la soutenir parce que je reconnais qu'elle est une victime, que ce qui lui arrive, ce n'est pas de sa faute, qu'elle fait face à de nombreuses difficultés. Alors, je vais travailler à la soutenir, je vais travailler à lui donner accès à des ressources, je vais travailler sur sa reprise de pouvoir, tout ce qui se fait au quotidien en maison d'hébergement. Et quand on va travailler auprès du conjoint violent, on va dire on travaille auprès de quelqu'un qui a eu des comportements qui sont inacceptables, qui sont même criminels dans certains cas, c'est lui qui est responsable de ce choix-là qu'il fait d'avoir recours à la violence et je vais travailler pour le responsabiliser par rapport à ses comportements. Alors, c'est ça la logique dans laquelle on est lorsqu'on est sur la planète violence conjugale. Et là, cette même famille-là qui est sur la planète violence conjugale, mais qui, le lendemain, s'en va faire un tour sur la planète de la protection de la jeunesse, là, on est dans une logique complètement différente. Parce que là, sur cette planète-là, notre focus n'est plus sur la violence conjugale, il est sur l'enfant. On focus sur l'enfant qui est victime de mauvais traitements et qui est en besoin de protection. Tout notre focus est sur l'enfant et même si on reconnaît, et on le reconnaît de plus en plus, que cet enfant-là peut être en besoin de protection parce qu'il est exposé à la violence conjugale, les intervenants vont clairement dire que leur rôle, c'est de protéger l'enfant. Ce n'est pas d'adresser la dynamique de violence conjugale. Donc, tout notre focus est sur l'enfant et à partir du moment où notre focus est sur l'enfant, sur la planète de la violence conjugale, ben en fait, on n'est plus tellement intéressé à déterminer est-ce qu'il y a une victime, est-ce qu'il y a un agresseur? Ce qui nous intéresse, c'est on a deux parents et on a des parents qui doivent se responsabiliser tous les deux pour prendre les moyens et assurer la sécurité et le développement de leur enfant. Historiquement, culturellement, on sait très bien qu'en protection de la jeunesse, le focus est généralement sur les mères et c'est la mère qui devient responsable. Alors que sur la planète violence conjugale, on dit ce qui vous arrive, c'est pas de votre faute, vous êtes une victime. On veut la déculpabiliser, la déresponsabiliser. Sur la planète protection de la jeunesse, parce que notre focus est sur l'enfant, puis nous, on veut juste que les parents se responsabilisent. On va dire, madame, prenez les moyens pour assurer la sécurité de votre enfant, et si vous n'y arrivez pas, si votre enfant demeure dans un contexte où sa sécurité est compromise, ben c'est quelque part, c'est de votre faute. Et c'est là où on va parfois dire aux femmes, aux mères, qu'elles exposent leur enfant à la violence conjugale, qu'elles ne prennent pas les moyens pour protéger leur enfant, qu'elles font les mauvais choix dans ce contexte-là. Et tout ce temps-là, le père ou le conjoint ou l'homme, qui pourtant est celui qui a eu les comportements violents puis qui a créé ce contexte de compromission-là pour l'enfant, il devient comme invisé parce que traditionnellement, on travaille peu, on engage peu les pères dans l'intervention en protection de la jeunesse. Et quand on est avec des hommes qui en plus ont des comportements violents, ben généralement, ils ne veulent pas s'engager. Ils sont très difficiles à mobiliser. Alors on travaille un peu par défaut avec la mère parce qu'elle, elle est là. Elle est plus facile à mobiliser. Bon. Je pense qu'il faut quand même mentionner que les choses évoluent, certainement pas assez rapidement. Il y a encore beaucoup de travail à faire, mais on a vu en protection de la jeunesse, en 2006, on a reconnu l'exposition à la violence conjugale comme un motif possible de compromission. Et plus récemment, dans les dernières modifications qui ont été apportées à la loi sur la protection de la jeunesse, qui seront seulement en vigueur l'an prochain, on a fait de l'exposition à la violence conjugale un motif de compromission distinct. Donc, on l'a sorti mauvais traitement psychologique. Avant, il était dans la grande catégorie mauvais traitement psychologique qui créait aussi beaucoup de confusion avec le conflit de séparation. Alors, on l'a sorti de là. On en a fait un motif de compromission distinct, mais ce qui est aussi vraiment intéressant avec ces modifications récentes-là à la loi, c'est qu'on nomme explicitement que la violence conjugale ou l'exposition à la violence conjugale inclut aussi l'exposition à la violence conjugale post-séparation. Et on vient mettre certaines balises dans la loi pour tenter d'orienter les interventions en termes de responsabilisation du parent violent et de reconnaître les stratégies de protection qui sont déployés par le parent victime. Plusieurs intervenants encore aujourd'hui, en 2022, ça peut être un peu étonnant, mais à partir du moment où les parents se sont séparés, ils ne parlent plus de violence conjugale. Donc, ils ne reconnaissent comme pas que la violence conjugale, elle va souvent se poursuivre suite à la séparation. On va souvent parler dans ce contexte-là d'un conflit de séparation ou d'un conflit sévère de séparation. L'enfant lui-même, parfois, peut résister les contacts ou réagir fortement à la présence du père au contact. Bien, souvent, on va accuser la mère d'avoir transmis ce message-là à l'enfant, de lui avoir transmis son anxiété, mais c'est quand même des changements majeurs là, qu'on doit apporter sur cette planète-là pour arriver, bien, d'une part, à assurer la sécurité de l'enfant, des enfants et de leur mère, parce que ça devrait être les deux devraient être notre préoccupation, mais aussi pour assurer une meilleure cohérence entre les différentes planètes sur lesquelles les familles doivent naviguer finalement lorsqu'ils vivent dans un contexte de violence conjugale.
Là, on a établi qu'il y a des conséquences. C'est l'enfant, il y a des conséquences sur toute la famille et que c'est difficile, disons, d'apporter une cohérence entre les différentes approches lorsqu'on travaille en violence conjugale. Je m'inspire d'exemples réels que nous avons à la Dauphinelle. Une maman, il y a des accès pour les enfants pour le père, donc le père peut les voir une fin de semaine sur deux. Et puis maman réalise qu'au retour des visites, ben, la routine des enfants est perturbée ou les enfants n'ont pas les mêmes comportements, sont plus agressifs, par exemple. Comment est-ce qu'elle peut, disons, dénoncer ses inquiétudes sans justement paraître aliénante?
Ben, c'est jamais des situations qui sont simples. C'est toujours des situations qui sont assez complexes. À mon avis, parmi les pistes de solution, c'est vraiment d'essayer d'agir de manière proactive le plus possible. Lorsqu'on veut soutenir ces femmes-là, ces mères-là, je pense que c'est toujours mieux d'agir de manière proactive que d'être toujours pris à réagir face aux interventions ou à ce qui arrive. Donc, je pense que très, très tôt, c'est important que ces femmes-là comprennent le système, comprennent les enjeux, comprennent c'est quoi les démarches, comprennent qu'est-ce qui s'en vient. Je pense que idéalement très, très tôt dans le processus, ces femmes-là seraient représentées par un avocat, par une avocate qui a une expertise en violence conjugale, puis qui va les accompagner à la fois dans les procédures au niveau de la protection de la jeunesse, de la chambre de la jeunesse, mais aussi possiblement à la cour supérieure. Puis s'il y a des procédures en criminel, ce serait important qu'elles soient accompagnées. Donc un accompagnement, mais en fait pas juste un accompagnement, mais idéalement même une représentation légale pour ces femmes-là le plus tôt possible dans le processus. Je pense que c'est idéal, surtout lorsque c'est des situations très complexes, puis on se retrouve parfois avec des femmes qui sont prises elles-mêmes à se représenter dans les procédures, et c'est complexe et c'est souvent loin d'être idéal. Ensuite, je dirais qu'il faut essayer de... je pense qu'il faut documenter, et ça, je pense que c'est... Faut encourager les femmes à le faire, mais aussi les intervenants peuvent le faire. Donc, documenter s'il y a des preuves, s'il y a du harcèlement par texto, s'il y a des preuves par courriel. On essaie de documenter le plus possible, prendre des notes, garder des dates. Ça peut toujours être utile par la suite. Et il faut vraiment essayer de et là, je pense qu'il peut vraiment avoir un travail important pour les intervenantes qui accompagnent ces femmes-là, au niveau, par exemple, de la défense de droit, d'essayer de faire un peu d'éducation avec les autres intervenants de d'autres secteurs, parfois, avec lesquels on est appelé à collaborer, pour vraiment essayer de faire comprendre aux autres intervenants impliqués dans le dossier que c'est pas un conflit de séparation, que c'est pas un conflit sévère, c'est une situation de violence conjugale, puis qu'il y a un schéma de comportement chez ce père-là qui fait que, oui, on a des inquiétudes, puis que, oui, cette mère-là elle a des inquiétudes et qu'elles sont légitimes et qu'il faut absolument les prendre au sérieux. Je pense qu'il y a vraiment un travail d'éducation parfois à faire là, avec les différentes intervenantes et intervenants qui sont impliqués au dossier pour vraiment faire comprendre que c'est de la violence conjugale et que, oui, il y a des enjeux de sécurité pour cet enfant-là, parce que c'est vraiment ça le nerf de la guerre. Donc, je pense qu'essayer vraiment de documenter pour démontrer que c'est de la violence conjugale, qu'il y a des enjeux de sécurité, et vraiment maintenir le cap là-dessus, là, dans les différentes procédures, là, que ce soit en protection de la jeunesse ou éventuellement la Cour supérieure aussi.
Merci beaucoup de tous ces conseils très utiles, très pertinents pour les femmes et même pour moi-même là, qui est intervenante en maison d'hébergement. Le temps file, donc je me demandais si jamais il y a des personnes qui nous écoutent en ce moment à la maison qui ne sont pas nécessairement certaines. Est-ce que mes enfants sont exposés? Est-ce qu'elles devraient aller chercher de l'aide? Ça va peut-être se retourner contre moi. Est-ce que vous auriez un dernier mot de la fin à leur dire?
Bien, je pense que je dirais deux choses, en fait. Pour avoir travaillé beaucoup au cours des 20 dernières années avec des enfants qui vivent dans un contexte de violence conjugale, mais aussi avec des femmes et des mères qui vivent dans un contexte de violence conjugale, je pense que ce que j'ai constaté, c'est que généralement, ces femmes-là, ces mères-là, ont à cœur la sécurité et le bien-être de leurs enfants et vont généralement mettre en place toutes sortes de stratégies, ils vont faire appel à toutes sortes de stratégies, de moyens, de ressources pour assurer la sécurité de leurs enfants et pour répondre à leurs besoins. Et je pense que même les femmes elles-mêmes souvent ne réalisent pas tout ce qu'elles ont fait au quotidien pour répondre aux besoins de leurs enfants et pour assurer la sécurité de leurs enfants. Donc, je pense que un message pour ces femmes-là, pour ces mères-là, c'est de reconnaître qu'elles ont exercé leur maternité dans un contexte qui est souvent très difficile, très complexe, mais qu'elles en ont souvent fait beaucoup plus que ce qu'elles réalisent pour assurer la sécurité et le bien-être de leurs enfants. Et ne pas hésiter à aller chercher de l'aide et du soutien, peut-être le plus tôt possible dans le processus, d'être soutenu, d'être épaulé, d'avoir accès à des informations, à du soutien, c'est important. Et à mon avis, la porte d'entrée pour tout ça, ça demeure les maisons d'hébergement qui ont vraiment, elles, une expertise en matière de violence conjugale, mais qui sont aussi capables de répondre aux questions puis de soutenir les femmes et leurs enfants dans les différents besoins qu'ils peuvent avoir là, dans un contexte de violence conjugale et dans un contexte post-séparation. Donc, de pas hésiter à aller chercher de l'aide pour avoir un coup de main dans tout ça parce que c'est des situations puis c'est des procédures qui sont complexes, qui sont lourdes, qui sont fatigantes. Puis c'est normal d'être fatigué et dans ce contexte-là, il ne faut pas hésiter d'aller chercher de l'aide et du soutien, là.
Bien, sur cette magnifique conclusion, je vous remercie énormément, M. Lapierre, d'avoir accepté de participer à notre balado. Ça a été une discussion très enrichissante, même pour moi. Donc, merci beaucoup, puis continuez de faire tout le beau travail que vous faites également là, au niveau des travaux universitaires.
Bien, merci beaucoup. Merci encore pour l'invitation.
Merci beaucoup d'avoir écouté le balado 40 ans pour elle de la Dauphinelle. Nous espérons que cela vous a plu, que cela a suscité des questionnements chez vous, que vous allez le partager avec votre entourage. Si jamais vous ne vous sentez pas bien ou si vous êtes dans une situation de violence conjugale, n'hésitez pas à contacter notre ligne d'écoute, Contactelle, au 438-522-9264, par téléphone ou par texto, ou encore SOS Violence Conjugale. En cas d'urgence, n'oubliez pas de toujours faire le 911 immédiatement.